l'Outaouais maintenant. Voici Carl Bélanger et Michel Lapointe.
Salut Carl.
Salut Michel.
Bon, dossier Gertin encore. Et là, ça va coûter plus cher. Là.
Ben oui, écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment surpris? Tu sais, à chaque fois qu'une municipalité, une ville qui s'embarque dans un projet pour un aréna, pour une équipe sportive, quel que soit le niveau, on dirait que c'est les contribuables qui sont toujours pris à étirer le carnet de chèques, à payer la note. On a toujours des dépassements de coûts et c'est toujours les municipalités qui sont, ou en fait, les contribuables qui sont pris à payer la différence. Puis c'est ça qui va arriver dans le cas du nouveau Gertin, malheureusement. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage encore une fois parce que on arrive avec des grands plans, on tente de contourner les règles qui sont en place, un projet de loi spécial sans appel d'offres. Et ben voilà, ça va coûter au-delà de 100 millions de dollars ce projet-là et Gatineau qui va en assumer une bonne partie, non seulement avec de l'argent sonnant, mais aussi en payant plus cher pour les temps de glace, pour ce qui a été consenti là à VMSO pour que la ville fasse une plus grande part. Et non seulement ça, ça va prendre encore plus de temps avant que la ville obtienne l'aréna. On parle maintenant de 45 ans. Écoute, aujourd'hui, les arénas qui sont construites, ça dure pas aussi longtemps qu'avant. Ça devient dépassé rapidement.
Donc, on devient des locataires à vie à la limite, là.
Ben,
quand
j'ai vu
l'expression, parce que ça t'offre pas 45 ans, peut-être, là.
Ben écoute, on a juste à regarder les arénas qui ont été construits dans la région récemment, juste la, du côté des sénateurs. Écoute, il y a déjà des US cette aréna-là, puis ça fait longtemps qu'on veut en construire un nouveau. Alors, c'est un peu partout comme ça, à travers l'Amérique du Nord, la durée de vie utile de ces arénas n'est plus ce qu'elle était avant. Les arénas qui duraient 100 ans, qui sentaient le hockey, tu comprends?
Oui, oui.
Ben, ça disparaît, et on veut faire toujours une, plus moderne.
Pour faire une boutade, c'est comme nos poêles frigidaires, là. Ça dure pas mal moins longtemps que les vieux gros appareils blancs.
Ben, pourtant, mais ou les jaunes.
Oui, et verts aussi. Si on peut continuer.
Ben oui, tu sais. Écoute, bon, ça fait partie du progrès.
Carl, tu sais, puis je sais qu'il y a des gens qui ont toujours été contre cette façon de faire-là, là, de que Gatineau a choisi pour la construction, pour le projet Gertin. Il y a des gens qui étaient en faveur. Visiblement, moi, ce que j'en retiens, c'est que Gatineau a pris un risque. Puis s'il n'y avait pas eu de COVID, ça aurait peut-être pu marcher. Mais là, on ne pouvait pas prévoir une pandémie. Je te dis pas qu'ils ont pas de tort, c'est pas ça que j'essaie de te dire, mais tu comprends où je m'en vais?
Oui.
Ils ont risqué quelque chose, puis la COVID est venue un peu comme tout chambouler, là.
Et en même temps, c'est clair que la COVID a un rôle dans les revenus, hein, qui entraient pour VMSO, mais ça a le dos large, parce qu'il y avait des problèmes avant cela. Hein, les dépassements de coûts, on les avait déjà annoncés avant cela. Évidemment, ça a empiré avec l'arrivée de la COVID-19, parce que c'est quand même depuis mars qu'on a arrêté de donner de l'argent pour aller qui patiner, qui jouer à d'autres activités, faire d'autres activités. C'est sûr. Mais c'est quand même un risque. Est-ce que nos sociétés devraient continuer d'agir comme cela? Et Gatineau, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a d'autres à travers le pays, à travers la province. Regarde à Québec, je veux dire, le Centre Vidéotron, qui a un club junior dedans. Ça a coûté combien ça aux contribuables? C'est un modèle qui ne fonctionne pas. Le risque ne devrait pas être assumé par les contribuables. D'ailleurs, c'est ce qui avait fait dire à Jacques Parizeau qu'on ne pouvait pas financer un nouvel aréna pour les Nordiques à l'époque. Ils ont quitté. Puis plus tard, ben on construit un aréna qui est vide, puis les Nordiques sont toujours pas de retour.
Et si jamais il y a une équipe de retour un jour dans cet amphithéâtre-là à Québec, il sera déjà désuet probablement.
Ben, quand tu parles d'éléphant blanc, là,
c'est un des gros, c'est un des gros. Bon, ouais. Les tarifs d'électricité seront réduits pour les producteurs enceintes?
Oui, il semblerait que ce soit une annonce qui s'en vient du côté du gouvernement Legault. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire les tarifs d'électricité pour les producteurs qui utilisent des serres. Donc, ce qu'on veut, l'objectif, François Legault le mentionnait sur Twitter aujourd'hui, on veut améliorer l'autosuffisance alimentaire des Québécois et ça passe nécessairement au Québec par les serres, car sinon, faire pousser des légumes et des fruits en février, ça marche pas au Québec. Alors,
pas
ça
vraiment.
Prend des serres et ça coûte cher, tout
ben,
ça.
Est-ce que Exo va avoir droit à cette réduction-là?
Ah, ça, c'est une bonne question. Quelles seront les modalités?
Ben.
Est-ce qu'Exo sera... écoute, je pense que le cannabis serait, d'après moi, inclus là-dedans parce que les critères vont être en matière de production. Donc, il y aura des barèmes qui sont installés par rapport à la puissance requise. J'imagine que ça sera... tu sais, je sais pas moi, 300 kilowatts heure ou je sais pas trop là, tu sais, je suis pas un technicien là-dedans, ouais. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il y aura des tarifs préférentiels. La question qui m'intéresse cependant, c'est bien beau donner un tarif préférentiel à ces entreprises, mais est-ce que ça se reflétera dans nos paniers d'épicerie? Est-ce que les consommateurs pourront bénéficier de cette aide directe à ces producteurs? Parce que, veux pas, tu le sais, par exemple, un panier de fraises du Québec par rapport à un panier de fraises qui vient des États-Unis ou d'ailleurs, ben les Québécois qui ont les moyens, malgré la qualité supérieure, la fraîcheur supérieure du produit, ben souvent se tournent vers ce qui est moins cher, surtout dans une période de crise économique comme on vit actuellement. Alors j'espère qu'il y aura des modalités pour que ça se reflète dans le panier d'épicerie des consommateurs.
Oui, effectivement. Sauf là, reste à voir, malheureusement, les prix vont... Ça veut dire que pour les producteurs, ils pourront en profiter, mais là, ça dépend de la distribution, puis là, il peut y avoir des augmentations ailleurs. Enfin, bref, c'est toujours compliqué.
C'est toujours compliqué, mais à tout le moins, c'est une belle initiative. Absolument. D'aider la production.
Absolument.
Locale. Moi, j'ai hâte de voir les détails, mais je pense que c'est un bon pas dans la bonne direction.
Ben, écoute, ça va avec le achat local, je veux dire, c'est une excellente initiative.
C'est une extension logique de ça. Oui,
absolument. Bon, sondage léger, ça a l'air qu'il est temps que les conservateurs choisissent un chef.
Écoute, sondage léger qui est sorti aujourd'hui, les grandes lignes, Parti libéral du Canada à 39%, le Parti conservateur qui chute à 25%, et le NPD qui est pas très loin derrière à 20%. Le NPD, d'ailleurs, qui est au-delà de la barre du 20% partout au pays, sauf au Québec, remonté dans les prairies, remonté en Ontario, en Colombie-Britannique, et ça se fait surtout aux dépens des conservateurs. Je pense qu'on se cherche encore. Évidemment, on n'a pas de chef, mais là, ça commence à faire longtemps, et Andrew Scheer n'a pas vraiment livré la marchandise pendant la période de la course à la direction. Il faut le dire, la course elle-même n'a pas vraiment levé haut. C'est pas été des grands débats. On a encore parlé de ces fantômes, de ces squelettes que les conservateurs traînent toujours, c'est-à-dire l'avortement, les questions sociales. Tu sais, on prêche à la base, ben l'ensemble des Canadiens qui regardent ça se disent, c'est pas vraiment le parti qui nous parle présentement. Ben ça laisse vraiment le champ libre à Justin Trudeau, qui est loin devant. Ceci dit, au Québec, mentionné, une remontée du Bloc québécois qui se retrouve à 35%. Ça, c'est seulement 4 points derrière les libéraux de Justin Trudeau. À 35%, le Bloc québécois ferait le plein d'appui en région, parce que les conservateurs sont vraiment plus dans la course. Là, on est tombé à 12% au Québec, le NPD à 10%. Donc, c'est vraiment une course à deux qui s'installe, comme dans le bon vieux temps de Jean Chrétien, puis de Lucien Bouchard et de Jules Duceppe. Hein, où le Parti libéral et le Bloc se séparent le Québec essentiellement.
Le bon vieux temps, ça, Carl.
Ouais, pour certains.
Ben, au moins, il n'y avait pas la gueule de bois dans ce temps-là. Il disait... Et tu sais, ça ne gênait pas un politicien à l'époque.
Et ça ne gênait pas, et on n'avait pas de masque non plus, donc on ne pouvait pas se cacher derrière ça pour nos politiques. Exactement.
Tout à fait. Passe une belle soirée, Carl, puis on est là
demain. Salut, Michel.
Salut.
À demain, bye.